RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Seriez-vous prêt à tout renoncer par amour? Mais par amour, par Dieu. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes font le choix radical d'entrer au monastère. Profession, vie de couple, loisirs et voyages, ils renoncent à tout, car c'est bien une histoire d'amour qui les conduit avec un Dieu qui a chamboulé leur vie. Et ce matin, dans Je pense donc j'agis, nous leur donnons la parole et nous allons essayer de comprendre ce qui peut apparaître comme une folie aux yeux du monde. Et puis dans la seconde partie de l'émission à 10h, on parlera de ces monastères, de ces abbayes qui sont des destinations parfois privilégiées pour celles et ceux qui ont besoin de calme, notamment l'été. On vous présentera quelques propositions à partir de 10h. Soyez les bienvenus dès maintenant pour participer et pour réagir. Dans votre entourage, est-ce que quelqu'un a-t-il fait récemment le choix de la vie religieuse? Quelle a été votre réaction et celle de ses proches? Est-ce que vous comprenez ce genre de décision? Pensez-vous qu'elle soit plus difficile à prendre en 2022? Et si oui, pourquoi? On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h. Je pense, donc j'agis sur RCF.
Et pour la dernière fois cette semaine, yes! Non, je rigole. Véronique Alzur.
Mais non, je sais que vous êtes triste.
Oui, rédactrice en chef, foi et spiritualité est à nos côtés, à mes côtés même. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous.
Hein.
Oui, bah, je sais bien. On se craint pas, comme on dit à Lyon. Donc, entrer dans la vie religieuse, nos invités le confirmeront certainement dans un instant, cela relève moins d'une décision personnelle que de la réponse à un appel. C'est la conséquence d'une rencontre avec Dieu et de l'amour de Dieu auquel il faut apparemment le reconnaître, difficile de résister. N'empêche, si nous sommes vraiment libres, il y a tout de même un oui à dire et une décision à prendre. Concrètement, entrer dans la vie religieuse, cela signifie lâcher une vie personnelle, parfois une carrière ou au moins une vie professionnelle, l'éventualité d'une vie de couple et d'enfant, des loisirs ou des hobbies qui peuvent être une passion. Bref, c'est renoncer à bien des choses. Si pendant longtemps, il était fréquent d'avoir au moins un enfant prêtre ou religieux, aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. D'abord, excepté dans certains milieux, c'est assez rare et cela interroge beaucoup l'entourage, car les temps ont changé et se retirer du monde va à contre-courant du mouvement général. On ne va pas se mentir, les vocations sont devenues rares et bien des noviciats sont vides dans les communautés religieuses. Mais certains et certaines répondent encore à cet appel de Dieu, parfois très jeunes et parfois après des années d'évitement, de questionnement, voire de résistance. Alors pourquoi et comment faire le choix de la vie religieuse en 2022? Quels sont les principaux obstacles? La vie religieuse rend-elle heureux? C'est le thème de cette émission Melchior.
Et pour en discuter dans cette première partie, Véronique, on a le plaisir d'accueillir plusieurs invités.
Oui, nous sommes avec Vincent Brenhardt. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf et vous êtes responsable à la conférence des évêques de France du service des jeunes et des vocations. Nous sommes également avec sœur Marie Bernard, qui est maître des novices à l'abbaye bénédictine de Maumont, en Charente. Et nous serons rejoints dans quelques minutes par deux autres religieuses dont vous avez... Vous avez entendu les voix et qui sont devenues, vous sont devenues familières. C'est sœur Anne-Lise qui est l'abbesse des bénédictines, pardon, des Clarisses de Poligny dans le Jura et sœur Clémence qui est une toute jeune sœur de cette communauté. Alors il faut peut-être préciser, Melchior, que une série de podcasts sera bientôt disponible sur notre site.
Ah bah tout à fait. Et le point de départ, c'était Pâques, Véronique.
C'était Pâques, c'était Poligny, donc cette communauté de Clarisse qui nous a accueillis, avec lesquels nous avons vécu le Triduum Pascal, un moment très beau et très fort. Et nous avons décidé, tout au long de l'été, de vous proposer, sous forme de podcast, donc, eh bien, de retrouver l'ensemble des entretiens que nous avons pu avoir avec les sœurs de cette communauté. Elles nous partagent les raisons de leur vocation, de leur engagement religieux, et puis aussi les questions qui se posent pour elles au quotidien, leur vie en communauté, leur vie de prière, leur vie de Clarisse. Vraiment des entretiens à retrouver et à redécouvrir, parce que ces témoignages sont, nous, à titre personnel, vraiment bouleversés. Vous avez été nombreux à réagir.
C'est un dossier qui,
de cette émission, de ces retransmissions.
Vie monastique, à quoi ressemble la vie au couvent? Voilà, c'est le nom de ce dossier qu'on peut retrouver sur rcf.fr.
Alors nous avons, je vous le disais, la joie d'accueillir Sœur Marie Bernard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette émission. Sœur Marie Bernard, vous êtes religieuse bénédictine, vous êtes maîtresse des novices dans l'abbaye de Maumont, qui se trouve, je le disais, en Charente. Qu'est-ce que c'est qu'une maîtresse des novices?
Alors la maîtresse des novices, c'est la sœur dans la communauté qui reçoit la mission d'accueillir les jeunes ou les moins jeunes qui sentent un appel et qui vont plonger dans la vie monastique avec un grand temps qui s'ouvre, qui s'appelle le temps du noviciat, qui va être un temps à la fois pour vivre très concrètement la vie monastique et pour discerner si sa place est vraiment là, si on peut s'y épanouir, si le Seigneur appelle, donc un discernement qui se fait en vivant déjà la vie monastique, avec un rythme qui est celui du noviciat.
Plonger dans la vie monastique, vous l'avez fait à quel âge, Sœur Marie Bernard?
Alors je l'ai fait à 25 ans, il y a 25 ans.
Donc ça a été pour vous une décision quand même mûrie, même si 25 ans c'est quand même jeune. Ça a été une espèce de choix radical tout d'un coup. Comment ça s'est passé?
Alors ça s'est passé d'un seul coup. Si je compte le temps, je dirais qu'il m'a fallu à peu près 5 ans pour... À 20 ans, j'ai découvert la communauté de Maumont et à 25 ans, j'y suis entrée. Et entre les deux, ça a été ce temps de discernement, alors qui s'est poursuivi ensuite au monastère, mais un temps pour entendre quelque chose, pour laisser grandir un désir en soi, et puis un temps de combat qui a été assez fort.
Un combat, alors on reviendra sur ce terme dans un instant.
Parce que je me faisais une idée de la vie monastique qui n'était pas ce qu'elle est, et du coup je résistais beaucoup à l'idée que je m'en faisais.
Alors Vincent Brenhardt, vous êtes vous responsable, je le disais également, du service jeunes et vocation à la Conférence des évêques de France. Vous êtes prêtre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu comparable dans le choix de la prêtrise, ou est-ce que vous aussi vous avez le sentiment d'avoir vraiment répondu à un appel?
Oui, alors moi je suis prêtre religieux, donc j'ai découvert mon appel au sacerdoce au sein d'une communauté religieuse, une communauté nouvelle dans laquelle au fond j'ai découvert le Christ, j'ai été attiré par la personne du Christ, j'ai fréquenté le Christ dans sa parole et j'ai entendu une parole qui m'invitait à le suivre sur ce chemin particulier du sacerdoce. C'est vrai que répondre à l'appel, c'est d'abord, je dirais, une attraction de la personne du Christ, parce qu'on a ce Dieu vivant révélé en Jésus qui nous dit mais viens, suis-moi et sers l'humanité à travers ce ministère particulier. Pour moi, c'est comme être un prêtre. Je crois que j'aurais pu être père de famille. D'ailleurs, le pape François dit dans les critères de discernement d'un futur prêtre qu'il pourrait être un bon époux et un bon père de famille.
Mais parce que donc, à un moment donné, il y a vraiment un choix à faire.
Oh, tout à fait, il y a un choix. Il y a un choix qui vient questionner notre liberté, notre éducation, nos désirs, nos passions. Nous sommes des êtres libres. J'aurais tout à fait pu me marier et fonder une famille, mais librement, j'ai fait le choix de me consacrer tout entier à l'Évangile en étant prêtre.
Alors nous sommes très heureuses d'accueillir Sœur Anne-Lise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Sœur Anne-Lise. Alors on va essayer de faire un petit quelque chose pour que le son soit meilleur. Mais en tout cas, on est très très contente de vous accueillir de nouveau sur notre antenne. Les auditeurs avaient eu le plaisir et la joie de faire votre connaissance lors de la Semaine Sainte. À vos côtés, Sœur Clémence est là également. Bonjour à vous, Sœur Clémence.
Bonjour.
Alors, sœur Clémence, on va vous donner la parole tout de suite parce qu'à votre voix, on entend que vous êtes toute jeune. Sœur Clémence, quel âge avez-vous et depuis combien de temps êtes-vous Clarisse dans ce monastère de Poligny ?
Alors, j'ai 27 ans et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis au monastère.
Alors, pour vous, ça a été vraiment la réponse à un appel, sœur Clémence, d'entrer au monastère ?
Oui, c'était un oui posé devant une demande du Seigneur.
C'est-à-dire, vous avez senti intérieurement que vous étiez appelée. Comment ça se passe, ce genre d'expérience? Ça peut paraître quand même très étonnant pour des gens qui ne sont pas tout à fait familiers de ce vocabulaire et de ces réalités.
C'est très étonnant déjà pour quelqu'un qui est assez familière avec ce vocabulaire, donc ça ne m'étonne pas trop. Pour moi, ça a été quand le Seigneur est devenu vraiment une personne à qui je me suis adressée et à qui lui s'est adressé. Alors bien sûr, c'est pas avec des mots, c'est pas avec une voix que l'on entend, mais c'est comme ce murmure de brise légère dont Élie parle, comme ce cœur à cœur qui se fait, cette demande. Je ne sais pas trop comment dire ce lieu de bonheur qui attend, quoi.
En tout cas, ça n'a pas été quelque chose qui vous a renversé et qui a été fulgurant.
Pour moi, non. Pour moi, ça s'est fait peu à peu. Aussi parce que je connais le Seigneur depuis toujours. Mais qu'après, la manière de répondre, l'appel particulier, ça a mis un peu plus de temps à venir. Par contre, il y a eu un moment un peu plus fort où le Seigneur a dû venir vraiment briser mes dernières résistances pour que je puisse dire oui et le faire.
Sœur Anne-Lise, vous nous entendez bien ? Est-ce que Sœur Anne-Lise est là ?
Alors,
on va
oui,
peut-être...
Alors,
ah, vous êtes là. Très bien. Alors, Sœur Clémence, on vient de l'entendre, est une jeune sœur de 27 ans. Vous avez la chance, dans cette communauté de Poligny, d'avoir un certain nombre de jeunes sœurs. D'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est assez rare actuellement ?
Je pense qu'on peut dire que c'est assez rare. En tout cas, je parle pour la famille de Sainte-Claire, puisque je connais mieux. Mais oui, on est le monastère où il y a plus de jeunes en ce moment en France. Hein, en tout cas, je parle évidemment pour la France, c'est pas le cas pour les pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, par exemple, ou même d'Asie.
Est-ce que vous pensez que les jeunes attirent les jeunes?
Oui, ça, je pense qu'il y a quand même un effet d'attraction aussi de la jeunesse. Bien sûr, c'est le Christ qui appelle, mais pour la réponse, sans doute plus facile de s'engager où il y a des jeunes.
Alors, sœur Anne-Lise, on a, je le disais, entendu toutes ces jeunes sœurs pendant le Triduum Pascal. On va proposer de nouveau sur notre site internet de les réentendre tout au long de l'été. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour, en l'occurrence, une jeune femme de faire le choix de la vie religieuse, de plonger, comme le disait tout à l'heure sœur Marie Bernard ?
Peut-être que le contexte actuel en France est plus difficile puisque avec le fait qu'il y a de moins en moins de chrétiens, donc du coup les familles sont peut-être moins porteuses pour soutenir une vocation, mais je pense que le choix de la vie religieuse, du don total a toujours été quand même difficile. Je pense peut-être à peine plus aujourd'hui par rapport au contexte de l'Église en France, mais...
Alors, sœur Marie Bernard, dans votre communauté, vous êtes maîtresse des novices, mais actuellement, il se trouve qu'il n'y a pas de novices. Est-ce que c'est une souffrance pour une communauté ?
Je pense que une communauté qui est un corps et comme un corps humain a ce désir de transmettre la vie, de transmettre son charisme. Donc il y a quelque chose de naturel et d'heureux à ce désir de transmission. Mais on expérimente aujourd'hui que si personne vient demander à recevoir, on va pas lancer une campagne de candidature. C'est pas comme ça que ça se passe. Et du même coup, on réalise que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a quelque chose de mystérieux dans cet enfantement à la vie religieuse qui est d'abord un don de Dieu. Avant d'être une œuvre humaine, c'est d'abord un don de Dieu. Mais je dirais que, alors, de fait, ne pas avoir de jeunes à qui transmettre, en tout cas pour l'instant, pour ce qui nous concerne, peut être une souffrance, une épreuve pour la communauté, et c'est sûr qu'on y est sensible. Mais j'ajouterais que la fécondité à laquelle on est appelé, elle déborde la question du noviciat. Une communauté religieuse peut avoir une véritable fécondité et un véritable rayonnement, même s'il n'y a pas de jeunes au noviciat. Le fait qu'il y ait des jeunes n'est pas du tout sans importance, mais ce n'est pas le tout de la communauté.
Une communauté religieuse ne cherche pas à faire du chiffre, si j'ose dire.
Exactement. Je dirais que le nombre et la jeunesse sont des critères du monde et auxquels nous sommes sensibles aussi. Mais il y a un au-delà. La fécondité n'est pas le succès. Vous voyez la nuance.
Vous êtes sur RCF, vous l'entendez ce matin, nous parlons de ces hommes, de ces femmes qui ont fait le choix radical d'entrer au monastère. Elles ont tout renoncé pour Dieu. J'ai du mal à parler ce matin, Véronique. Et on essaie de, voilà, leur donner la parole ce matin et de comprendre ce qui peut apparaître comme parfois une folie aux yeux du monde. Et vous avez la parole, bien sûr, pour participer à l'émission, pour réagir. Dites-nous si dans votre entourage, quelqu'un a fait ce choix d'entrer dans la vie religieuse. Et puis, quelle a été votre réaction et celle de ses proches d'ailleurs? Est-ce que vous comprenez ce genre de décision? Est-ce que vous pensez qu'elle soit peut-être plus difficile à prendre, cette décision, en 2022? Et si oui, pourquoi? On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Et avec nos quatre invités ce matin, Véronique, c'est aussi pour ça qu'on a quelques soucis de liaison qu'on a pu entendre tout à l'heure, mais je pense que tout est rétabli.
Oui, puis on a des techniciens qui font presque des miracles à RCF.
C'est un autre sujet encore.
Père Vincent Brenhardt, Melchior le disait là il y a un instant, en 2022, c'est peut-être moins évident de faire ce choix de la vie religieuse. Selon vous, quels sont les principaux obstacles auxquels... J'ai envie de dire un jeune, mais on verra peut-être plus tard que les jeunes ne sont pas les seuls à faire ce pas, ce plongeon, pour reprendre l'expression de Sœur Marie Bernard. Les principaux obstacles aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être?
Une vie religieuse et un engagement dans la vie religieuse, ça naît dans un terreau, le terreau de la vie chrétienne, le terreau de la vie paroissiale, de la foi transmise dans la famille, de ce qu'on peut vivre à l'école, à l'université, dans l'aumônerie des jeunes, dans le scoutisme, tous ces lieux où... Le jeune va découvrir progressivement ce qui le rend heureux. Une vocation religieuse, c'est un chemin d'épanouissement humain et spirituel. Le pape François disait, là où il y a la vie religieuse, il y a la joie. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va donner aux jeunes une plus grande qualité de joie, une plus grande expérience de joie? Alors ce qui rend difficile parfois l'écoute de l'appel de Dieu, c'est que ce terreau, parfois, il est un peu fragile, c'est tout. On prie moins en famille, on parle moins de Dieu à l'école, on voit moins Dieu présent dans la société, et ceux qui choisissent ce chemin sont parfois un peu marginalisés. Je dirais pas moqués nécessairement, mais un peu incompris. Alors, beaucoup de jeunes qui sentiraient, je crois, profondément le désir d'embrasser cette vocation au service, à la fraternité, au don total, sont peut-être moins portés à le faire. Mais comme le disaient très bien les autres participants de notre forum, c'est vrai de toute période de l'histoire de l'Église. N'oublions pas que la vie religieuse, elle a commencé juste après l'expérience du grand martyr des premiers siècles et qu'après la fin des martyrs, bien des hommes et des femmes se sont dit « mais nous, on veut continuer à se donner de façon radicale pour transmettre l'Évangile ».
Sœur Clémence, quand vous avez annoncé autour de vous que vous entriez chez les Clarisses de Poligny, quelles ont été les réactions?
Alors de ma famille déjà, il y a eu quelque chose de... C'était pour moi une belle expérience parce que c'était à la fois personnel, parce que j'ai fait le choix d'aller voir chacun des membres de ma famille et j'ai 5 frères et sœurs et encore mes 2 parents. Et du coup, ça faisait pas mal de discussions et de laisser l'espace pour que chacun réagisse comme il veut.
Et globalement, ça a été bienveillant.
Ça a été bienveillant, oui. Parce qu'ils me connaissaient aussi. La plupart n'étaient pas trop surpris. Hein.
Quelles ont été les choses auxquelles vous avez dû renoncer qui vous ont peut-être le plus... qui ont été le plus difficiles, voilà. Celles que vous avez eu du mal à lâcher.
Les week-ends à Paris avec mes deux amis.
Ah. Au moins, c'est clair. Ça, c'est...
Et peut-être, il y a des choses... Sur le coup, je me disais ça allait me manquer... Et finalement, après, dans le temps, on voit ce qui est vraiment un source de renoncement et ce qui a été même oublié. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du rugby pendant un
du
bon
rugby.
Moment. Oui.
D'accord.
Et j'aimais beaucoup ça, mais pourtant, c'est pas ce qui a pu me coûter le plus, finalement.
Alors, sœur Anne-Lise, on entend là le témoignage de sœur Clémence. Parmi les jeunes sœurs que vous avez accueillies dans la communauté de Poligny, est-ce que vous avez senti que pour certaines d'entre elles, le choix de la vie religieuse impliquait vraiment des renoncements difficiles? Est-ce qu'il y a parfois un besoin d'accompagnement particulier, d'échange pour comprendre ce qui peut être difficile à certains moments pour ces toutes jeunes sœurs?
Oui, chacune est très différente, donc l'accompagnement est personnel pour chacune et selon les expériences aussi et puis d'où elles viennent, j'ai envie de dire. Ça peut être plus ou moins difficile, renoncement aussi à cette... Vous en parliez au début de l'émission, de cette vie affective, de cette vie en couple. Une de nos jeunes avait eu l'expérience d'une vie en couple avant, et par exemple, et du coup, ça, il faut accompagner pour avancer et pour discerner, du coup, la vocation aussi, si c'est vraiment là qu'elle doit être, si c'est ici qu'elle sera heureuse. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas, donc c'est un renoncement, hein, c'est un pour toutes. Hein. Mais quand on a expérimenté, c'est des fois un peu plus difficile au départ. Ce problème va revenir pour chacune à un moment donné, ça peut être au début, ça peut être plus tard, cet appel à la vie de couple et au don d'être mère, que nous donnerons autrement, enfin que nous aurons autrement, une fécondité autre, mais qu'il faut découvrir petit à petit, et ça peut être aussi à accompagner. Quoi.
Alors les week-ends à Paris, c'est une chose, mais effectivement, renoncer à une vie de couple et avoir des enfants, alors j'ai envie de dire peut-être plus pour une femme, mais c'est certainement aussi un très gros renoncement pour certains hommes. C'est probablement la question qui se pose de manière la plus aiguë, sœur Anne-Lise ? Ou pas forcément ? Ah, nous avons perdu sœur Anne-Lise, alors on va se tourner vers sœur Marie-Bernard.
Ben, je pense que qu'effectivement, c'est un renoncement qui a son poids. Parce qu'on est, comme je l'évoquais tout à l'heure, à propos d'une communauté religieuse, en tant que femme, en tant qu'homme, on est quelque part, on est fait pour la vie, on est fait pour aimer et on est fait pour donner la vie. Donc ça passe, pour la plupart d'entre nous, ça passe par le fait de se marier, d'avoir des enfants. Et donc le choix à la vie religieuse, bah, il est radical dans ce sens-là.
Je crois que vous êtes à l'économat, la sœur.
On va vraiment exprimer une préférence du Christ qui va jusqu'à lui donner tout, y compris notre corps et dans le fait de lui réserver.
Alors, je crois qu'on a une auditrice.
Mais on en a même deux. On va accueillir Geneviève pour commencer au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève. Bonjour.
Voilà, j'ai beaucoup de joie à écouter cette émission aujourd'hui, car mon ami de toujours, mon ami de lycée et en seconde, première, terminale, a fait le choix radical, effectivement, d'entrer dans la vie monastique au monastère de Pradines dans la Loire, entre Lyon et Roanne. Et pendant 15 années, elle a été mère abbesse, mère supérieure de ce grand monastère. Bon, maintenant, pour des raisons de santé, mais surtout par grande sagesse et sens aigu du discernement, elle a laissé la main d'elle-même à une autre sœur. Et maintenant, elle a réintégré Pradines, mais en tant que sœur, quoi, voilà, elle n'est plus mère abbesse Et comment dire ?
Et comment avez-vous réagi ? Comment avez-vous réagi quand elle vous a annoncé qu'elle entrait dans la vie religieuse ?
Très très mal.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Ben en fait, bon, nous étions extrêmement proches. Nous, pendant nos trois classes terminales au lycée, on était déléguées de classe toutes les deux. On était inséparables. On travaillait ensemble. On faisait nos dissertations de français, de philo. On a énormément échangé, discuté en toujours en grande profondeur et en vérité. Mmh. Bon, puis elle pensait se marier. À l'époque, bon, comme moi, quoi, se marier, avoir des enfants. Et puis
pas du tout.
Moi, je me suis mariée. J'ai eu d'abord mon premier enfant. Après, j'en ai eu deux autres. Et pendant 2 ans, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Aucune, rien. Puis un beau jour, je reçois un roman de 300-400 pages, je ne sais plus, dans lequel elle m'expliquait avec force détails donc qu'elle allait rentrer au monastère de Pradine. Et pourquoi, comment ça lui était venu. Mmh. Et bien qu'elle ait connu d'ailleurs un jeune homme, ouais, elle avait connu quelqu'un, et quelqu'un avec qui elle aurait certainement pu fonder un foyer.
Mais ça a été une révélation pour vous, en tout cas. Enfin, une révélation. Oui, elle vous a révélé ce qui s'est passé. Et on imagine, Geneviève, que ça vous a aussi chamboulé.
Complètement.
Mmh. Et vous avez de bons liens avec elle maintenant ?
Ah ben j'ai tout, là, je suis toujours en lien. D'ailleurs, je vais très bientôt aller la voir à Pradine.
Ah ben c'est super.
Bon, puis on salue les sœurs de Pradine qu'on aime beaucoup sur RCF.
Et qui nous écoutent d'ailleurs souvent.
Donc, c'était, pour vous dire, c'était Mère Scolastique.
D'accord.
Mon amie de toujours.
Hein. On va pour
Mère Scolastique qui est maintenant sœur scolastique, hein, puisque elle a laissé la main d'elle-même. Hein. Elle aurait très bien pu continuer à rester mère abbesse.
Merci Geneviève.
Voilà.
Merci beaucoup pour ces témoignages et de nous avoir raconté cette expérience au 04 72 38 20 23. Sœur Marie Bernard, vous êtes toujours avec nous. Peut-être nous redéfinir ce qu'on appelle mère supérieure pour celles et ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire.
Alors dans la communauté alors bénédictine, mais dans toute communauté religieuse, il y a un supérieur ou une supérieure qui est généralement élu par la communauté et qui reçoit cette mission d'être un peu le berger de l'ensemble des brebis, une mission donc de guide et d'accompagnement. La supérieure de la communauté donne un enseignement à la communauté et accompagne chacune dans son chemin de vie spirituelle.
Père Vincent Brenard, on entendait dans ce témoignage et puis dans ce que sœur Clémence nous a dit tout à l'heure qu'il y a aussi un autre renoncement auquel on n'avait peut-être pas pensé, c'est celui de l'amitié, des liens. Alors les liens, eux, perdurent, mais la proximité, les choses partagées, les virées à Paris, ça, forcément, il faut accepter que c'est terminé.
Écoutez, dans tout choix, il y a des renoncements. La personne qui va se marier, hein, la femme qui choisit un mari, elle renonce à tous les autres hommes. Et vous savez bien, quand vous êtes parent, que vous éduquez des enfants, que vous les éduquez aussi à vivre un certain renoncement. Il y a effectivement dans la vie religieuse un renoncement, mais il faut bien en parler. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Si on renonce, c'est pas par masochisme ou pour se faire du mal. C'est parce qu'on est attiré par quelque chose qui nous donne encore davantage. Le célibat consacré interroge, on l'a bien entendu. C'est un don, c'est une grâce faite par Dieu à l'humanité et à l'Église en particulier. C'est un don pour toute l'Église. C'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est vrai, qui interroge chacune de notre humanité. Mais enfin, comment ça se fait que cette belle jeune fille ne se marie pas et que ce jeune homme, bardé de diplômes, rentre dans un monastère pour y vivre une vie de prière toute en lien avec le monde, mais d'une certaine façon séparé de ce monde qu'il va porter différemment dans la prière. Donc forcément, la vie consacrée, le célibat consacré depuis l'origine ne cesse d'interroger, d'interpeller. Le pape François nous disait récemment, la vie consacrée, c'est un exercice de louange de Dieu et d'être prophète d'une vie nouvelle.
Voilà, en réalité,
c'est peut-être ces deux mots qui nous définissent, la louange et la prophétie d'une autre réalité.
Et puis, pas de relation exclusive, on va dire, quand on entre dans une communauté religieuse.
On est frères de tous. pour reprendre les mots de Charles de Foucault, d'être frère universel. Je crois qu'il y a beaucoup d'amitié. Moi, qui suis frère de la communauté du Chemin Neuf, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté ou à l'extérieur. J'ai des amis hommes, j'ai des amis femmes, j'ai des amis mariés, j'ai des amis célibataires. Mais c'est vrai que je n'entretiens pas de relations exclusives. J'essaye d'être tout à tous avec un cœur tout donné à Dieu, et parce qu'il est tout donné à Dieu, il est tout donné aux hommes et aux femmes qui viennent frapper à la porte.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. Dans un instant, Christine nous rejoindra au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également réagir par mail à direct@rcf.fr. Et puis dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, à tout de suite. Accompagné par Thésée avec ce chant Laudate Dominum.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Et gros plateau hein, ce matin dans Je pense, donc j'agis. Quatre invités nous accompagnent, Véronique.
Alors nous sommes avec sœur Clémence et sœur Anne-Lise, l'abbesse de la communauté des Clarisses de Poligny. Nous sommes avec sœur Marie Bernard, qui est maîtresse des novices de la communauté bénédictine de Maumont. Et nous sommes également avec le père Vincent Brenhart, prêtre de la communauté du Chemin Neuf et responsable de la pastorale des jeunes et de la pastorale des vocations à la CEF.
Christine nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Ah bien, moi, voilà, je vais vous relater brièvement deux expériences. Il y a à peu près 2 ans, je fais partie de la paroisse de Marty de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Et une petite jeune fille qui, d'une famille catholique pratiquante, toute simple, toute douce, je pense qu'elle a eu sûrement fait un chemin intérieur, mais elle nous a annoncé qu'elle entrait dans une communauté religieuse et les parents avaient l'air en pleine félicité tout ça. Mais moi qui suis maman de 5 enfants et qui ai perdu très jeune ma mère, j'avoue que j'ai été interrogée par ce mystère-là, pourquoi elle, pourquoi si jeune, pourquoi et j'ai eu c'est peut-être mon sentiment personnel parce que c'est moi qui transpose ça, mais je me suis dit mon Dieu j'ai été époustouflée, oui, mais aussi en tant que maman, je me suis interrogée personnellement et je me suis dit est-ce que on fait les enfants pas pour nous, c'est sûr, mais c'est ce besoin de postérité, parce que tout à l'heure le père a parlé du célibat, je pense qu'il voulait évoquer aussi la chasteté, le don physique, mais c'est engendrer la vie, qu'on soit un homme ou une femme.
Oui.
Ils enfantent la vie différemment, mais quand même c'est un sacré don de pas transmettre cette vie cette lumière qu'on a en nous. Et j'ai aussi et ça m'a vraiment époustouflée parce que peu de temps après, le papa qui, bon, je ne suis pas dans le secret de tout un chacun et je respecte oui. la vie personnelle des uns des autres. Le papa est devenu diacre. Et deuxièmement, moi je fais le rosaire tous les ans depuis 6 ans en tant qu'ancienne infirmière et avec les dominicaines de Marseille. Et aussi une autre expérience, c'est pour ça que je me demande, Dieu, c'est fou parce qu'on a l'impression que certains sont appelés et nous on reste au bord du chemin.
Ah oui.
On est, et j'ai eu un jeune qui était d'un milieu un peu aisé, dirons-nous, et qui était trader à Londres. Et je pense que vraiment Jésus l'a secoué parce que du jour au lendemain, j'ai discuté longuement tout le long du retour du rosaire.
Mais ce qu'on entend dans votre témoignage, Christine, c'est que aussi pour une mère, c'est parfois difficile de comprendre. Sœur Anne-Lise, vous voulez réagir? Est-ce que Sœur Anne-Lise est là?
Oui, je suis là. Je suis là. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Oui, on vous entend très bien.
Réagir par rapport aux parents, c'est ça? Enfin, aux mères qui...
Oui, par rapport au témoignage de Christine aussi qu'on a entendu.
Mais j'entendais aussi dans ce témoignage qui me dérange un tout petit peu, enfin pas qui me dérange, mais je voudrais justement compléter, comme si les religieuses, elles étaient choisies et puis du coup préférées quelque part et que les autres étaient restées sur le bord du chemin comme si elles étaient délaissées par Dieu. Je crois que nous sommes tous des baptisés, enfin, en tant que chrétiens baptisés et tous appelés à une vocation différente, mais pas meilleure. C'est pas la vie religieuse qui est meilleure. Enfin, ça, je tiens vraiment à le dire haut et fort. On n'est pas meilleur parce qu'on est religieuse. On n'est pas plus aimé parce qu'on est religieuse. C'est une réponse à un amour de Dieu particulière, mais on peut répondre à cet amour de Dieu dans toutes les vocations. Je voulais le noter qu'on n'est pas...
Alors, ceci dit, notre auditrice soulignait, Sœur Anne-Lise, que pour une mère, ça peut être difficile de voir un de ses enfants renoncer, encore une fois, à se marier, à avoir des enfants. On projette sur nos enfants des tas de choses et parfois la projection ou les plans sont un peu bousculés par la vie, la réalité de la vie de chacun.
Certains que pour les mères, surtout peut-être pour les mères, mais les pères aussi parfois, c'est peut-être un peu moins, ça se montre moins chez un père peut-être, mais c'est difficile pour les parents parce qu'en effet, ils ont tous des plans sur leurs enfants, sur nous, et ben, qui va souvent à l'encontre de leurs plans, et puis de ne pas avoir de petits-enfants, eh bien voilà, s'il n'a pas eu d'autres, j'imagine, des enfants célibataires qui s'engagent dans la vie religieuse, où il n'y aura pas de... Eh bien, c'est une souffrance, en effet, pour les parents, ça c'est évident.
Vos propres parents ont bien réagi quand vous leur avez annoncé votre vocation ?
Bon, ils étaient guère plus surpris que ça. Moi, j'ai attendu très longtemps pour leur dire, pour être le moins longtemps avec eux dans cette avant de rentrer. Donc, mais ça s'est passé mieux que je pouvais l'imaginer. Papa n'est pas pratiquant, maman oui, donc pas été puisqu'elle est décédée depuis, mais ça s'est plutôt bien passé.
Alors, il y a une dimension qu'il faut absolument évoquer. Sœur Clémence, je me tourne vers vous, puisque vous êtes à quelque chose près la plus jeune d'entre nous, quoique avec Melchior, ça doit être à peu près une génération hyper connectée, une génération qui est très familière des réseaux sociaux, d'Internet, des sites de streaming. Est-ce que, Sœur Clémence, c'est quelque chose qui, pour vous, a été compliqué à laisser tomber? Aujourd'hui, vous n'avez plus de téléphone portable personnel, par exemple?
Non, pas de téléphone portable personnel, pas d'ordinateur que je peux emmener où je veux ou sur lequel je dois demander la permission pour regarder des choses sur Internet.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour vous d'abandonner?
Alors, il y a eu deux choses pour moi. La première, c'était de laisser mon portable en dehors et de ne plus voir mon Facebook ou de films. Et ça, finalement, j'avais un peu peur parce que je me disais, comme un peu tout le monde, je dois être un peu accro. Et peu à peu, je m'étais un peu distanciée, même de Facebook, parce que rien quand on a l'idée d'entrer, il y a un chemin intérieur qui se fait. Et en fait, ça a été une grande respiration pour moi. Une liberté retrouvée de quelque chose qui en fait m'oppressait, d'aller voir ce que faisait tout le monde, ce que disait tout le monde, moi d'être obligée de répondre ou on voyait quand est-ce que j'étais connectée mais que je voulais pas répondre. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez intrusif dans tout ça. Donc un soulagement. Et par contre, ce qui a été un peu plus difficile, mais c'est ça touche à l'obéissance dans la vie religieuse, ce vœu qu'on prononce plus tard à l'engagement. Et ça, pour moi, c'était plus difficile de demander pour aller voir une information sur Internet, de devoir m'inscrire sur un tableau pour avoir un temps sur l'ordinateur. Ouais, mais plus ce qui touche à l'obéissance et donc à la dépossession de moi-même et de ma volonté qui est grande.
Père Vincent Brenard, je me tourne vers vous parce que comme responsable de la pastorale des jeunes à la Conférence des évêques de France, ces problématiques, vous les connaissez probablement bien pour côtoyer pas mal de jeunes, discuter avec eux justement de leur quotidien, de leurs aspirations. Est-ce que vous ressentez de leur part ce sentiment de, j'ose le mot, d'une forme d'esclavage, peut-être avec des guillemets, mais quand même, Sœur Clémence disait qu'elle était accro, on l'est tous finalement.
D'hier, de ce dimanche, il y avait Saint Paul aux Galates qui disait « Frère, c'est pour être libre que vous avez été libérés ». Et c'est vrai que toute vie humaine, toute vie chrétienne est un chemin de liberté. Et Sœur Clémence a bien dit, peut-être par rapport à ces réseaux sociaux, à cet univers hyper connecté, il y a un chemin de liberté auquel on aspire tous. C'est vrai que la sœur qui fait choix de vie contemplative va se voir vivre sans téléphone. Le prêtre de vie apostolique que je suis, tout religieux que je suis, moi je vis aussi avec un téléphone chaque jour. Et donc cet exercice de liberté par rapport au monde connecté, je suis appelé à le vivre. Donc je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ils attendent des propositions
mais est-ce que vous
courageuses,
pensez que...
radicales, mais profondément humaines, qui respectent l'humanité.
Vous pensez que ce monde hyper connecté, il fait obstacle à un engagement qui... induit, qui inclut, comme vient de l'expliquer Sœur Clémence, d'y renoncer et puis faire un usage très parcimonieux.
Ce monde hyperconnecté, il dit aussi la connexion entre les hommes. Les instruments sont aussi des possibilités de nous connecter entre nous. Alors, on en voit bien les limites. Parfois, on est très proche du lointain et très loin de mon voisin. Donc, il faut faire bon usage de ces instruments de connexion. L'Évangile nous invite à aimer ce monde que Dieu nous donne, à le convertir, à l'évangéliser, mais à ne pas être esclave de ce que parfois l'esprit du monde nous propose. Donc je ne dirais pas que c'est nécessairement un obstacle. Par contre, ce qui peut être un obstacle, c'est l'absence de silence intérieur. C'est de savoir se retirer dans sa chambre, dans cet espace intérieur, pour écouter la voix de sa conscience et écouter Dieu qui nous parle. Et c'est vrai qu'un des grandes difficultés dans les chemins vocationnels, quels qu'ils soient, pour engager une vie dans un mariage, pour engager une vie dans la vie consacrée, c'est l'absence de silence. Le monde est rempli de bruit. Et moi, le premier conseil que je donne à un jeune souvent, c'est apprends à faire silence quelques minutes au début de ta journée. Et la première chose que tu fais avant d'ouvrir ton réseau social ou la chaîne d'information, c'est d'ouvrir quelques versets de la parole de Dieu et de méditer avec ta vie et avec cette parole. Et tu iras beaucoup plus loin, tu te sentiras beaucoup plus libre, beaucoup plus capable d'affronter la journée qui est devant toi et de la vivre avec passion plutôt que d'être à la recherche de ce que les autres diront de toi et penseront de toi.
Yvette est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Yvette.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà, alors je voulais juste porter un petit témoignage. Donc, lorsque j'avais 33 ans, j'ai rencontré le Seigneur avec une belle force, magnifique, et je suis entrée au couvent, mais malheureusement, la maîtresse des novices n'a pas compris, et donc je me suis fait virer parce que, je voulais défendre une petite novice, voilà. Donc là, comme c'était elle la chef, donc dehors. Et après, j'ai cherché partout un lieu pour m'accueillir, pour vivre ma vocation, qui était vraiment très forte. Et c'est une grande douleur aujourd'hui, 30 ans après, je suis toujours seule et je cherche toujours, mais par contre, le Seigneur ne m'a jamais laissée. Et j'ai pu avoir une vie extrêmement riche pour défendre, toujours défendre les injustices. Les enfants maltraités, etc., qui venaient à moi. Et puis, j'ai pu comme ça aussi m'occuper de toute ma famille, où il y a beaucoup de jeunes blessés dans ma famille et très malheureux. Donc, je continue mon combat, mais seule.
Mmh. Merci beaucoup, Yvette, de nous avoir appelé ce matin dans Je pense donc j'agis. Sœur Marie Bernard, à travers ce témoignage d'Yvette, on entend que c'est pas toujours évident non plus de trouver sa place dans la vie religieuse.
Alors, excusez-moi, parce qu'il y a eu une coupure, j'ai très peu entendu ce qu'a dit Yvette. C'est un petit peu difficile pour moi de réagir.
Alors, Yvette nous partageait qu'elle a été accueillie dans une communauté religieuse, mais qu'elle oui. n'y est pas restée. Pour reprendre son expression, elle a été virée, parce qu'elle a voulu prendre la défense d'une jeune sœur. Apparemment, Yvette est très impliquée dans la défense des plus fragiles. Elle est très sensible aux injustices. Et aujourd'hui, elle n'a pas retrouvé, disons, une place dans une communauté religieuse. Et elle vit seule et on sent quand même une pointe de tristesse dans oui, cette, oui. Cette trajectoire qui n'est peut-être pas tout à fait celle qu'elle avait imaginée.
Oui. Je comprends. Et de fait, on entend de l'épreuve et en même temps de beaucoup de vie à travers ses engagements aujourd'hui. Il y a un verset de la Bible dans le livre d'Isaïe que j'aime beaucoup et qui m'aide personnellement. Et j'y pense avec ce témoignage d'Yvette. Lorsque le Seigneur nous dit « Je te conduis par le chemin où tu marches ». Parfois, on se dit « ma voix, c'est celle-ci et il n'y en a pas d'autre ». Et puis, il y a des accidents de parcours. Les choses ne se déroulent pas comme on les avait pensées. Et en plus, il peut y avoir des incompréhensions, etc. Il peut y avoir des histoires difficiles, douloureuses. Mais je dirais, c'est pas pour ça. Enfin, moi, ce que j'entends à travers cette parole que le Seigneur nous donne, c'est que quelle que soit la route sur laquelle on marche, lui, il est avec nous. Il nous accompagne. Et parfois, on peut avoir le sentiment de s'être trompé, mais c'est pas pour ça que tout est fichu, tout est fini. Et à travers ce que dit Yvette, on sent justement beaucoup de vie et de dons de soi qui passent à travers elle, et ça me semble très heureux, ça.
Sœur Anne-Lise, est-ce que vous avez le sentiment que la fidélité dans l'engagement pose problème aujourd'hui de la part de ceux et celles qui entrent dans une communauté religieuse, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce pas. Tenir, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? Sœur Anne-Lise, est-ce que vous êtes avec nous? Non, Sœur Anne-Lise n'est plus avec nous.
On a quelques soucis de
connexion. Poligny, c'est dans le Jura, c'est ravissant, c'est mais la connexion n'est pas toujours excellente. Sœur Marie Bernard, tenir dans la vie religieuse, ça vous semble plus difficile aujourd'hui dans le contexte justement qu'on évoquait il y a un instant, de monde très connecté, où des tas de choses sont possibles?
Je pense que c'est une difficulté. C'est une réelle difficulté, et quand je rencontre des jeunes qui s'interrogent par rapport à la vie religieuse ou même par rapport à un engagement d'une manière générale, l'effet durée à la fois fascine mais effraie. Parce qu'ils se disent « mais je vais pas être capable de tenir aussi longtemps dans une... » Pour parler de la vie monastique, toujours au même endroit, toujours avec les mêmes personnes, alors que le monde me propose des voyages, des divertissements multiples, il y a une espèce de grand écart qui fait peur. Donc en tout cas, moi je sens pas mal cette peur chez les jeunes. Donc on peut se dire que c'est pas forcément très facile, mais l'expérience que l'on fait au monastère, que l'on fait dans la vie religieuse, c'est l'expérience du don, l'expérience de la grâce. Donc aussi, beaucoup de choses nous sont données pour vivre ce qui est à vivre. Et le Seigneur donne sa grâce, le Seigneur qui appelle donne véritablement sa grâce. Et à la fois, il y a des difficultés, il ne s'agit pas du tout de le nier, mais quelle est la vie où il n'y a pas de difficultés? y compris dans une vie de famille, dans une vie de couple. Je dirais la difficulté, elle fait partie de la vie.
Alors,
on peut... Oui, allez-y.
Donc, je voudrais quand même qu'on entende Sœur Clémence à ce sujet. Quand vous êtes entrée au monastère de Poligny, Sœur Clémence, est-ce que vous aviez vraiment conscience que c'était pour la vie?
Oui, et ça me faisait très peur aussi. Enfin, quand on rentre, il y a tellement la joie du don, parce qu'il y a l'amour qui est là et qui nous attend. Et l'amour, après, reste là, mais il est purifié peu à peu.
Puis il faut dire qu'il y a des étapes quand même dans la vie religieuse. On signe pas un chèque en blanc, là on n'entre pas en CDI tout de suite. Hein.
Oui, tout à fait.
Il y a des stages.
Chez mes sœurs, les autres jeunes sœurs qui sont prophètes temporaires ou novices, je sens en chacune un désir de vraiment pénétrer un peu plus dans cette vie et voir si c'est bien ça. En vérité, se dire est-ce que c'est ça que le Seigneur veut pour moi, avec la conscience que si le Seigneur il nous demandait de sortir, ce serait pour être heureuse dehors et pas pour nous punir parce qu'on aurait mal fait, mais voilà, soit d'être ici pour être heureuse, soit de sortir mais pour être heureuse.
Finalement,
on parlait tout à l'heure.
Oui,
allez-y. Pardon. On parlait tout à l'heure des choses qui peuvent bloquer des vocations, et pour moi. Ce qui peut bloquer, ce que j'ai vu et entendu par d'autres, c'est l'impression de sainteté de la vie religieuse. Que pour entrer, il faut être saint. Et que du coup, j'ai entendu des amis me dire « moi, j'y arriverai pas, même si je voulais, je pourrais pas ». Et non, parce qu'on n'est pas plus sainte, on n'est pas moins pécheresse que ceux qui sont dehors, on n'est pas favorisés dans la grâce, on est aimé comme on est et on est appelé à une vie un peu particulière parce qu'on a besoin de ces particularités pour répondre à cet amour qui nous est adressé.
Sœur Anne-Lise, vous êtes avec nous, je crois, de nouveau.
De nouveau, je
voilà. Sœur Clémence a insisté sur le bonheur pour lequel on est fait. Ça rend heureux la vie religieuse, ça rend heureux la vie au monastère.
Ah bah oui, hein, parce que sinon je ne serais déjà plus religieuse.
Ça fait combien de temps que vous l'êtes?
Ça fait pas très longtemps, ça fait 11 ans.
Mais quand même.
Oui, quand même. Mais c'est pour ça que je serais pas restée si je ne trouvais pas la joie ici. Alors c'est sûr que c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, comme disait juste avant Marie Bernard. Mais c'est voilà, il y a quelque chose qui va au-delà. C'est cette joie qui est bien plus profonde que les petites joies superficielles qu'on et du coup qui rend pleinement heureux. Et puis. Qui déborde, quoi. Mais ça, c'est l'amour, quoi. Enfin, quand on est aimé, on est tous aimés, mais quand on se sait aimé par Dieu, eh bien voilà, ça rend heureux, quoi.
Alors, je peux en témoigner parce qu'on vous a vu, pendant la Semaine Sainte, de la joie, il y en a vraiment beaucoup à Poligny, on peut le dire, hein, on a bien ri.
Oui, c'est vrai.
Sœur Marie-Bernard, vous confirmez qu'on trouve sa joie, on trouve un bonheur dans la vie religieuse, malgré tout ce qu'on peut imaginer, des renoncements que ça implique?
Oui, oui. Enfin, moi, je suis rentrée au monastère pour être heureuse, pas pour autre chose. Ça, c'est sûr et certain. Et en fait, la vie monastique, la vie religieuse, c'est une aventure incroyable. On connaît le dépaysement, on connaît plein de choses, on fait plein de découvertes. C'est une vie extrêmement dense, en fait. De l'extérieur, on peut se dire c'est toujours pareil, on s'ennuie et c'est monotone. Il y a, on peut se dire, effectivement, les journées ressemblent aux journées. Et en même temps, il y a une... je dirais la vie avec le bon Dieu, ça décoiffe. Heureusement qu'on a un voile.
Père Vincent Brenard, on va vous donner le mot de la fin, mais vraiment, en quelques secondes, à un jeune qui s'interrogerait, une jeune, ou même un plus âgé, qu'est-ce que vous diriez?
Eh bien, les jeunes vont venir s'ils voient des hommes et des femmes heureux, et je crois qu'on vient de parler de la joie dans la vie religieuse. Le pape François nous disait, là où il y a des religieux, il y a de la joie. Eh bien, regarde ce qui te donne davantage de joie. Et regarde ce qui te permet de déployer les trésors que le Seigneur a mis en toi. L'humanité, la vie religieuse n'est pas là pour enfermer, mais elle est là pour ouvrir, pour dilater le cœur et pour être un chemin d'amour. Le religieux passe toute sa vie à aimer.
Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir pris du temps sur ces journées effectivement très denses que vous avez pour nous parler de votre vocation, de la vie religieuse dans des monastères ou dans des communautés religieuses. N'oubliez pas d'aller écouter les podcasts qui sont disponibles sur RCF pour découvrir cette vie religieuse avec les Clarisses de Poligny.
Un dossier qui s'appelle « Vie monastique, à quoi ressemble la vie au couvent ?» Il y a toute une sélection d'articles de podcasts RCF que vous pouvez retrouver et écouter tout au long de l'été aussi pour vous reposer. C'est une bonne proposition. Merci Véronique Alzieu.
Merci à vous Melchior.
Merci.
À la rentrée.
Je continue.
Moi. Ah oui, vous continuez, moi je vous laisse là.
Oui, avec grand plaisir Véronique, on se retrouve en août de notre côté. Et dans un instant, on va continuer, on va voyager dans des monastères et des abbayes qui proposent beaucoup de choses pendant l'été pour se ressourcer. À tout de suite.